qu'il est les Mancuniens en magazine un peu plus de confiance avant d'affronter City dans le derby en championnat samedi prochain, puis Arsenal la semaine d'après. Merci d'être avec nous sur RFI.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Le thème des enfants revient souvent sous la plume d'Éric Emmanuel Schmitt. Ainsi en est-il dans Oscar et la Dame Rose. Ici, ce n'est pas d'un enfant malade dont il s'agit, mais des 10 enfants qui font la fierté de Madame Ming. Cette dernière assure la maintenance des latrines du Grand Hôtel à Yunnan, grande ville du sud de la Chine. Le narrateur, qui s'y rend pour des raisons professionnelles, il est acheteur des jouets qui inondent nos magasins, fréquente cet hôtel et y fait la connaissance de Madame Ming. C'est ainsi que débute la fabuleuse histoire de Madame Ming et de ses 10 enfants.
La Chine, c'est un secret plus qu'un pays. Madame Ming, l'œil pointu, le chignon moiré, le dos raidi sur son tabouret, me lança un jour à moi, l'Européen de passage. Nous naissons frères par la nature et devenons distincts par l'éducation. Elle avait raison. Même si je la parcourais, la Chine m'échappait. À chacun de mes voyages, son sol s'étendait, son histoire s'évaporait. Je perdais mes jalons sans en gagner de nouveaux. Malgré mes progrès en cantonais, en dépit de mes lectures, quoique je multipliasse les contrats commerciaux avec ses habitants, la Chine reculait à mesure que j'avançais, tel l'horizon. Au lieu de se plaindre de l'obscurité, mieux vaut allumer la lumière, affirma Madame Ming. Comment ? Quel individu choisir pour fouiller ce sol énigmatique ? Quelle proie harponner ? La Chine contenait autant de sujets que la Méditerranée de poissons. La planète porte 1 milliard de Chinois et 5 milliards d'étrangers, murmura Madame Ming en ravaudant une paire de bas. Au cours d'une émission qu'elle écoutait sur sa radio en plastique bistre, vestige de l'époque maoïste qui enrhumait les voix en y ajoutant des postillons, Madame Ming répétait les propos du journaliste gouvernemental, un as des statistiques et du léchage de cul. 1 milliard de Chinois. À ce moment-là, je ne repérais pas ce qui la déconcertait. Qu'il y ait tant de Chinois ou si peu. La tête ronde d'une couleur écarlate, des plis nets sur la peau, des dents aussi fines que des pépins. Madame Ming évoquait une pomme mûre, sinon blette, un brave fruit, sain, savoureux, pas encore desséché. Mince, son corps semblait une branche souple. Sitôt qu'elle s'exprimait, elle s'avérait plus acidulée que sucrée, car elle distillait à ses interlocuteurs des phrases aigrelettes qui piquaient l'esprit. En cette province de Guangdong, Madame Ming trônait sur son trépied au sous-sol du grand hôtel, entre les carreaux de céramique blanche et les néons éblouissants, dans ses toilettes à l'odeur de jasmin où elle exerçait la charge de dame pipi. À ce métier qui mortifie les âmes maussades, Madame Ming avait restitué sa noblesse. Elle régnait au centre de l'univers. Lors des congrès et séminaires organisés quotidiennement à l'étage supérieur, c'est en courant que vous arriviez vers elle. À son abord, vous ralentissiez, vous piétiniez, Vous vous immobilisiez, sa muette majesté intimidait. Vous vous incliniez, vous l'imploriez des yeux, vous mendiez la permission d'accéder à son royaume. En cet instant précis, elle vous toisait avec l'air de percer ce qui se passait au fond de vos méninges et de vos viscères. Inutile de prononcer un mot, je sais très bien à qui j'ai affaire.
Pourquoi m'objecterez-vous ou suis-je en train de vous infliger ces détails ? Laissez-moi vous l'expliquer. Les transactions de ma firme me conduisaient au sud de la Chine. Au mois de juillet, j'ai acheté les jouets qui, le Noël suivant, enchanteraient nos petits. J'y commandais aussi les babioles, encore plus nombreuses, destinées aux enfants chinois. Poupées, baigneurs, voitures, avions. Ces articles en plastique étaient confectionnés pour une somme modique dans la province du Guangdong, puis expédiés en France où nos stylistes et nos ouvriers les conditionnaient avant d'en envoyer une partie en Chine. L'aller en retour en cargo n'affectant guère les marges, européens et américains utilisaient ce système de sorte que les marques occidentales dominaient le marché chinois avec des marchandises pourtant fabriquées sur place. À cause de mon don des langues, j'en parlais déjà 7, mes directeurs m'avaient dépêché en Asie, pariant que, rapidement, je quitterais l'anglais ankylosé des affaires pour converser en mandarin. Bien anticipé. Sauf sur un point, outre le mandarin, je devais me débrouiller en cantonais, l'idiome du Guangdong, où les usines de jouets poussaient à la vitesse des champignons. Indifférente à ces aléas, appliquée, concentrée, sereine, Madame Ming incarnait la permanence dans un monde versatile, administrant les toilettes du Grand Hôtel comme si cet établissement récent avait toujours existé, et surtout comme s'il s'agissait d'une mission de la plus haute importance. Dès nos premières rencontres, je ne pus m'empêcher d'estimer que son professionnalisme se gâchait là. Le jour où je finis par le lui dire, elle s'empourpra, embarrassée, puis répliqua en pliant la nuque.
Accomplir un acte remarquable vaut mieux que d'être remarqué.
Vous étonnez-vous que j'eusse entrepris des conciliabules avec une dame pipi au bout de la Chine ? À votre surprise, j'apporterai 3 réponses. Mes grands-mères briquaient les planchers des bourgeois. Je ne décline pas une occasion de pratiquer une langue lorsque je l'apprends. Et enfin, j'utilise une technique de négociation qui consiste à user les nerfs de mes partenaires en brisant la discussion pour m'absenter. Méthode qui m'astreint à m'engouffrer aux toilettes aussi fréquemment qu'un patriarche dont la prostate serait bombardée par l'âge. Un matin donc, je faussais compagnie aux 2 commerciaux de Pearl River Plastic Production et pendant qu'à l'étage, ils bouillaient d'inquiétude au sujet de mes commandes, je bavardais au sous-sol. En cherchant dans ma veste une pièce de pourboire, je laissais une photo glisser de ma poche, l'employé la ramassa, sourit en découvrant le cercle familial.
Ce sont vos enfants, monsieur ?
Oui.
Combien en avez-vous ?
2 par chance. Une fille, un garçon. Je n'en espérais pas davantage.
Dépasser le but n'est pas l'atteindre.
Elle me tendit le cliché. Par politesse, je me sentis obligée de lui retourner sa question. Et vous ?
J'en ai 10.
Pardon ?
J'ai 10 enfants.
Sur le coup, je crus que ma maîtrise du cantonais chancelait. Par sécurité, je répétais le chiffre 10 en mandarin, en anglais. À chaque fois, elle confirma de la tête. Incrédule, je déployais mes doigts en éventail. 10 ! Pour me tranquilliser, elle énuméra les prénoms.
Ting Ting, Ho, Daxia, Kun, Kong, Li Mei, Wang, Ru, Zhu, Shuang.
L'amour que ces vocables éveillaient en elle, illuminant ses yeux, gonflant ses traits, rendit son visage un instant juvénile. Sans commenter, j'esquissais une grimace admirative de circonstance, claquai les talons, puis dardard montai rejoindre les négociateurs. J'étais abasourdi. Quel mensonge outrancier ! Se figurait-elle que j'allais la croire ? M'estimait-elle stupide ? Chacun savait, même un touriste dépourvu de cervelle, que pour dompter la démographie, l'État chinois depuis des décennies interdisait aux couples de mettre plus d'un enfant au monde.
Depuis l'échange du matin, la baratineuse avait franchi le mur de réserve qui nous séparait et repris notre dialogue où nous l'avions laissé. Monsieur, comment s'appellent vos enfants ?
Fleur et Thierry.
Bien que j'eusse rétorqué avec un rictus sinistre, elle s'empara des prénoms et, affichant un sourire béat, les répéta, les psalmodia, les roucoula comme les sons les plus mélodieux du cosmos. Fleur et Thierry. L'avouerai-je, elle m'émut. Entendre mes chers prénoms prononcés par cette voix limpide, extasiée, dont l'articulation exotique rendait chaque voyelle rare, précieuse, bloqua ma respiration. Une larme coula sur ma main droite. Dès que j'en eus conscience, je blâmai mon sentimentalisme.
Pardon, il me manque.
C'est quand le froid de l'hiver surgit que l'on note que le pin et le cyprès se dépouillent de leurs feuilles après les autres arbres. Bienveillante, elle me tendit un mouchoir en papier. La joie se cache en tout. Il faut réussir à l'extraire. Pleurez, monsieur. Pleurez autant que vous le voulez. Je gagnai les lavabos où, bouleversé, je sanglotais sans retenue. Effectivement, c'était délicieux. En m'accablant, la mélancolie me comblait car la douleur exaltait l'affection que j'éprouvais pour Fleur et Thierry. Je me mouchais, ennuyée que cette menteuse m'ait percée, résolue à déguerpir. Hélas, elle se leva et un balai à la main me barra le chemin. Quel âge ont Fleur et Thierry ?
15 et 13 ans.
À quoi se destinent-ils plus tard ?
Oh, ils hésitent.
J'ajoutais encore avec sincérité, allez savoir pourquoi.
D'ailleurs, ça m'inquiète.
Elle approuva. Ma sixième limeille nous a donné ce genre de soucis. Depuis sa naissance, elle percevait des choses que nul ne remarquait. Dans les nuages, elle distinguait des visages. Au milieu de la vapeur qui embrume les sous-bois après la pluie, elle admirait des danses exécutées par des génies. Quand elle fixait des blocs de terre, elle détectait en eux des formes qui nous échappaient. Pourtant, limeille possédait de mauvais yeux. Très tôt, le médecin l'avait contrainte à porter en permanence des lunettes au verre aussi épais que le cul d'une bouteille. Je m'étais d'ailleurs tant habituée à ses loupes qu'un jour où je la douchais, j'ai sursauté, éberluée de découvrir que sans sa monture, Limei n'avait pas les orbites trois fois plus grosses que ses sœurs. Elle rebutait mon mari. Faut avouer qu'elle ne brillait pas en classe. En maths, elle riait aux éclats lorsque les lettres X ou Y se mêlaient au nombre et gloussait d'excitation si on lui annonçait qu'une ligne droite s'apprêtait à toucher une courbe. Moi, j'expliquais ses errements par un excès de sensibilité. Mon époux, lui, se reprochait d'avoir engendré une simple d'esprit. Où allons-nous fourguer cette morveuse qui ne voit pas ce que chacun voit, mais voit ce que personne ne voit ? À l'adolescence, il la traîna au poker, avec lui, espérant que pendant les tournois, elle radiographierait les cartes de ses adversaires et lui permettrait de rafler la victoire. Inutile, Limei ne devinait rien, ni as, ni pique, ni carreau. En revanche, elle repérait au-dessus des joueurs une lumière dont la couleur lui indiquait leur degré d'honnêteté. Un halo vermillon pour l'escroc, jaune pour le tricheur occasionnel, transparent pour l'incorruptible. Mon mari l'a présentée à un membre du parti que nous fréquentions, qui l'a ensuite introduite auprès de son supérieur, lequel l'a emmenée chez un haut responsable. Malheureusement, au-dessus de la perruque du chef, Limei a discerné l'auréole vermillon du fraudeur. Sa carrière d'espionne s'est arrêtée là. Ensuite, mon mari l'a boudée. Après cet esclandre, on lui avait ôté son emploi, le pauvre. Enfin, j'étais déjà ravie qu'on ne l'ait pas mis en prison. À mon tour, j'ai essayé de trouver un métier à Limei. Eh bien, nous avions tort de nous angoisser. À Pékin, elle illustre des albums. Vous connaissez Didi, la grenouille chanteuse ? Non ? Pourtant, les gamins s'arrachent les exemplaires. Limei les dessine à partir des textes rédigés par une pédiatre. Franchement, il fallait être elle, capable de surprendre ce que les autres ignorent pour sauver ses comptes. Car si on se limite à ce qu'énoncent les 10 ou 15 phrases qui composent l'épisode... L'an dernier, elle a épousé un masseur, un homme qui voit avec ses doigts. Et elle gagne confortablement sa vie désormais. Incroyable, non ? Sans pouvoir placer un mot ni battre en retraite, j'avais subi sa comédie. Reprenant ma respiration, je murmurais en écho. Oui, incroyable. Je brûlais de lui répondre « Excuse-toi plutôt de fanfaronner, sac à malice. C'est en me dupant que tu m'offenses. » Toutefois, soit par sidération, soit par lâcheté, je me contentais de m'incliner et remonter mener mes négociations.
Le lendemain, appréhendant d'endurer sa logorée, j'avais décidé de ne pas descendre au sous-sol. Cependant, au cœur d'une transaction, je quittais soudain la table théâtrale et par réflexe m'engouffrais aux toilettes. Devant les lavabos, je mimais l'homme préoccupé, je me peignais, me rinçais les mains une fois, deux fois, me frottais les dents, me peignais encore. Au fond de moi, je maudissais le piège dans lequel je venais de me fourrer en fuyant mes interlocuteurs chez la dame pipi. Je pestais tant face au miroir que, en mordillant une peau morte sur le bord d'un ongle, je m'entaillais la chair et mon doigt se mit à saigner. La première goutte brune échoua sur la cravate, la deuxième sur ma chemise. Merde.
Laissez-moi vous aider, monsieur. Fiez-vous à moi, j'ai les produits qu'il faut.
J'ai l'habitude. Mes jumeaux, Kun et Kong, étaient pareils. Oh pardon, je veux dire pire que vous. Kun et Kong attiraient les taches. Irrépressibles, de vrais séducteurs, d'où qu'elles viennent. Taches de gras, taches de sauce, taches de thé, taches de cambouis. Elles se précipitaient et hop, sur la chemise, sur le polo, sur le pull, près du cœur. Ça, ils ont commencé très jeunes, mes jumeaux, à collectionner les vêtements éclaboussés, les griffures, les éraflures, les bosses au front, les croûtes aux genoux. Plus téméraire, je n'ai pas connu. Ils sautaient des fenêtres, ils grimpaient aux arbres, ils parcouraient les toits. Fallait planquer les échelles ou les cordes. À peine leur père leur avait-il offert un vélo que les deux se dressaient debout sur la selle. Moi, j'ai d'abord eu peur. Pourtant, au bout de quelques années, je ne m'alarmais plus. Ils s'en tiraient toujours. C'étaient des enfants de cette sorte, des enfants que les habits rendent maladroits, des enfants pas faits pour les chaussures, les pantalons, les chandails, tout ce qui serre et, ou qui engonce. Voici donc votre conseil, conclus-je. Poursuivre mon métier dévêtu. J'avais souri. Elle rougit et s'absorba dans les plis de ma chemise de moins en moins maculée. Madame Ming détenait vraiment le talent de proférer des mensonges colossaux avec une angélique douceur. Au fond, ses délires m'égayaient. J'entrais dans son jeu. Kun et Kong ont été engagés par un cirque ? Elle tressaillit. Comment le savez-vous ? Madame Ming, les autorités ne se sont pas offusquées que vous ayez des enfants ?
Nous vivions à la campagne, dans une maison très isolée.
Personne ne vous a dénoncé ?
Que faisions-nous de mal ? Mon mari et moi désirions 10 enfants. Nous en avons eu 10. Nous les élevions bien. Pourquoi les gens nous auraient-ils cherché d'époux ?
Je soupirais, mais ne cessais pas mon interrogatoire. Un voisin jaloux, frustré, aurait pu vous dénoncer.
Nous déménagions souvent.
Un instituteur aurait pu être intrigué par...
Nos enfants portent des noms différents. Nous leur avons demandé de se prétendre cousins plutôt que frères et sœurs.
Je constatais qu'elle avait assez réfléchi à son canular pour le rendre crédible. Sans doute n'étais-je pas le premier à qui elle racontait cette parade des 10 enfants. Certains vivent-ils aujourd'hui avec vous ?
Non, aucun.
Mais pourquoi ?
Ils sont adultes, ils travaillent.
Ici ?
Un peu partout, parfois loin.
Bizarre, non ? Elle se cabra sur son tabouret.
Après la mort de mon mari, je me suis installée à Yunnan.
Et pourquoi ? Elle haussa les épaules, regrettant d'énoncer une évidence.
Il y a des emplois ici. J'ai été ouvrière 3 ans à la fabrique Pearl River Plastic Production avant d'obtenir ce poste au Grand Hôtel.
Je m'exclamais émerveillée. Pearl River Plastic Production, moi je commerce avec eux. Drôle. Elle darda sur moi un regard hostile, estimant qu'il n'y avait matière ni à rire, ni à s'ébahir. Pearl River Plastic Production fournissait la plupart des emplois à Yunaï. Chez Pearl, dans quel service travaillez-vous, Madame Ming ?
À l'atelier des poupons.
Elle me remit ma cravate, ma chemise, saisit son sac, y rangea ses ustensiles, vida les piécettes de son écuelle et, sans relever les sourcils, me dit d'un ton poli mais acerbe
« Bonsoir, monsieur ».
Je la remerciai, la saluai et pris machinal l'escalier. Au milieu des marches seulement, je m'aperçus que la dame Pipi venait de me congédier.
Le lendemain, on me conduisit à l'usine Pearl River Plastic Production que le directeur, flanqué des 2 vendeurs dont j'épuisais la patience, tenait à me faire visiter. Dans d'immenses hangars, 4 murs et un toit architecture minimale, des centaines d'employés fabriquaient les jouets en silence. D'un bâtiment à l'autre, la répartition des tâches reproduisait le sexisme de nos sociétés. Les mâles manipulaient les voitures, les femelles les poupées. L'atelier des poupons, celui où avait officié Madame Ming, m'impressionna. D'amples bennes grillagées convoyaient des membres roses, identiques, classés. La caisse des têtes, la caisse des torses, la caisse des bras droits, la caisse des bras gauches, celle des jambes droites, celle des jambes gauches. Déversés brutalement, ces fragments anatomiques partaient sur des tapis roulants, puis étaient saisis par les ouvrières pour de brèves soudures, afin de terminer, à l'extrémité de la manufacture, assemblée en baigneur. On aurait dit un abattoir à l'envers, où les êtres arrivaient morcelés et ressortaient entiers. 1000 bébés naissaient ici chaque jour. Parce que les femmes portaient un écran de papier sur le visage, des charlottes bleues autour des cheveux, elles semblaient des infirmières mettant des enfants au monde. Étrange nurse, précise, leste, sans état d'âme, qui accrochait une tête à un torse décapité, articulait des bras, vissait des jambes, rejetait à la poubelle un pied bancal ou un crâne fendu, tirait sur les carcasses pour tester leur solidité, jusqu'à ce qu'elle présentasse un ravissant nourrisson nu à l'infirmière-chef, laquelle, en bout de chaîne, contrôlait sa viabilité. De prestes mains de couturière habillaient les élus de culottes, de pyjamas, de salopettes, avant de les agglutiner dans une caisse. Pour qu'on se crût en une maternité, il manquait la criaillerie, les gloussements, la liesse, les compliments, les rires. On n'entendait que les machines. Près de l'issue, j'observais les corps entassés. Ils évoquaient tant des individus réels que leur promiscuité me choquait. Leur similitude aussi me pétrifiait. Lequel choisir ? Pour lequel opter ? Pourquoi celui-ci plutôt que celui-là ? Pendant cette méditation, j'eus le malheur de contempler l'usine d'une façon panoramique. Les ouvrières asiatiques, masquées, chapeautées, affublées de blouses turquoises, se ressemblaient. Je frissonnais. Quoi ? C'était cela notre condition ? Nous nous croyons rares alors que nous provenons du même moule ? Pareil, y compris par la prétention d'être unique. Afin de me détacher de ces considérations sinistres, je m'ébrouais, accomplis quelques pas, allais effleurer les poupons. Si aujourd'hui ils restaient interchangeables, demain, dès qu'ils seraient adoptés par un enfant, ils se différencieraient, remplis d'amour, tatoués d'une histoire, marqués par les expériences. C'est l'imagination qui singularise, l'imagination qui arrache à la banalité, à la répétition, à l'uniformité. Dans le destin des jouets, Je repérais celui des hommes. Seule l'imagination, produisant des fictions et forgeant des liens rêvés, crée des originaux. Sans elle, nous serions proches, trop proches, analogues, aplatis les uns sur les autres dans les bennes de la réalité. Madame Ming bluffait légitimement. Parfois, le sort cogne de manière si abrupte qu'il suffit d'une pointe de fantaisie pour l'attendrir. Quand je songeais aux 3 années qu'elle avait passées ici, où la vie se réduisait à des tâches ineptes réitérées 12 heures d'affilée parmi des collègues automates, je comprenais son besoin de s'évader, de partir, de respirer un autre air. Oui, dans cette prison, l'illusion demeurait le ciel par lequel on s'échappe. Le roman de ses 10 enfants la sauvait.
De retour au grand hôtel, je descendis aussitôt au sous-sol, plein d'une compassion nouvelle envers Madame Ming et ses leurs. Je tenais donc à effacer la néfaste impression que j'avais donnée la veille, lorsque j'étais devenu défiant, puis inquisitorial. Soudain, je fonçais vers elle. « Excusez mon attitude d'hier. Mes questions vous ont embêté et je vous ai à peine remercié d'avoir nettoyé mes vêtements. »«
Ça n'a pas d'importance. »«
Si. »«
Agis par gentillesse, mais n'attends pas de gratitude. »
J'adore que vous évoquiez vos enfants, Madame Ming. Je vous sens tellement bonne mère. J'ai retenu que vous aviez une petite Daxia. Quel prénom exquis.
Daxia. Un joli nom, mais une enfant terrible qui n'avait qu'une obsession, tuer Madame Mao.
Pardon ?
À 5 ans, la mort vaunée et détresse aussi fluette que de la ficelle, Daxia nous a annoncé « Quand je serai grande, j'assassinerai Madame Mao. » Puis elle a ajouté avec un regard atroce. Peut-être même avant.
Et pourquoi Madame Mao ?
Daxia haïssait cette bique galeuse qui avait massacré les Chinois par centaines de milliers pendant la révolution culturelle. Envoyer en camp de rééducation des gens brillants pour les avilir et ravager leurs talents. Promouvant des imbéciles, désinguant le théâtre, l'opéra, la musique. Quand la veuve Mao fut condamnée à mort, Daxia a applaudi et dansé jusqu'à minuit autour de la table. Néanmoins, le tribunal accorda 2 ans de sursis à cette despotique vieillarde pour qu'elle puisse se repentir. Puis la télévision a annoncé que Madame Mao, dans son appartement, s'était donné la mort. Daxia écumait de rage. L'oppresseuse lui avait volé son geste. Or, le pire restait à venir. Peu après, nous avons appris que le suicide s'était produit 2 ans plus tôt. 2 ans. Pendant 24 mois, les autorités l'avaient occulté. Daxia s'effondra. Non seulement on lui fusillait son destin, mais elle découvrait que ces dernières années, elle s'était évertuée en vain à se perfectionner dans l'assassinat. De ce jour, elle ne sortit plus de sa chambre et renonça à s'alimenter.
Qu'avez-vous fait ?
Son père lui a proposé de détester d'autres tyrans dont il avait dressé une liste. Pas question. Daxia l'a éconduit.
Alors ?
Je lui ai dit, « Ma fille, si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi. » Elle a compris.
Moi pas.
Vous me rappelez mon mari. Daxia pâtissait du même tempérament que Madame Mao. Vive, emportée, dure, indépendante, manipulant ses proches. Câline plus qu'aimante, séductrice davantage que séduite. Si Madame Mao avait exclu gamine qu'on lui bande les pieds, Daxia déchirait les robes que Ting Ting, sa sœur aînée, lui passait. Lorsqu'elle lorgnait quelque chose, elle estimait que tout le monde devait le vouloir avec elle. Alors que Madame Mao avait lancé aux responsables communistes « Me servir, c'est servir le peuple », Daxia criait à ses frères qui refusaient de lui céder leur canif « M'aider, c'est aider la justice ». À l'instar de Madame Mao, Daxia s'était convaincue qu'elle était une fille extraordinaire, bien au-dessus des masses. Quand un adulte ne s'en rendait pas compte, elle s'enfroissait, puis devenait vite agressive. Tuer Madame Mao revenait surtout à tuer la Madame Mao qui se trouvait en elle.
Bravo !
Avoir des défauts et ne pas s'en corriger, là réside la tare. Daxia nous prouva qu'elle était perfectible. Elle s'attacha à lutter contre son caractère plutôt que contre le fantôme de Madame Mao. Le sage décèle en lui la cause de ses travers, le fou en accuse les autres.
Et où vit-elle ?
À Hong Kong, chasseuse de tête. Et elle a déjà épuisé 3 maris.
Comme Madame Mao. Madame Ming gloussa à ma remarque, m'indiquant que, quoique absorbée par son récit, elle ne manquait pas d'humour. Les 5 jours suivants, je l'ai consacrée à un voyage à Shenzhen afin d'établir des contacts. De retour à Yunnan, pressée de conclure mes négociations, je savais que ne subsistait qu'un court délai pour recueillir les fantasmagories de Madame Ming. Le lundi, j'apportais une boîte de confiserie française dénichée à Shenzhen. « Tenez, Madame Ming, je ne reviendrai pas avant 6 mois. Voici un modeste cadeau. » Émue, elle protesta, refusa, puis accepta. Saisit le paquet, hésita à l'ouvrir, y consentit, protesta de nouveau en s'émerveillant devant les chocolats, me les rendit en alléguant qu'ils étaient trop somptueux, puis les réaccepta, me remercia 15 fois, insistant pour que je les déguste en sa compagnie. Nous nous assîmes l'un en face de l'autre, autour de sa fragile table, les pourboires et les gourmandises entre nous.
« Décrivez-moi, Fleur et Thierry !»
exigea-t-elle après avoir avalé avec moult piaulement de contentement une ganache pralinée. Devinant que je serais privée de récit si je n'obtemperais pas, je narrais des anecdotes sur eux. Pendant que je retraçais ma vie auprès de Fleur et de Thierry, elle me scrutait. Sous le laser de son regard, je m'essoufflais, de moins en moins convaincue de l'intérêt de ce que je racontais. Au bout de quelques minutes, gênée par l'intensité de son attention, je capitulais. « Madame Ming, prodiguez-moi vos conseils, vous qui semblez une mère avisée et améliorez le médiocre père que je suis. » Ses joues couperosées rejoignirent davantage, elle m'adressa une moue réticente.
« Inutile. »
Quoi ?
L'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la tient.
Bien que je la sentisse sur la réserve, j'insistai. Elle interrompit mes supplications.
Pourquoi me trompez-vous ?
Pardon ?
Je vous apprécie beaucoup, monsieur, et je vous suis très reconnaissant de votre sollicitude. Mais pourquoi mentez-vous ?
Médusée, je restais la bouche ouverte, ébahie par l'ironie de la situation. Cette femme qui élucubrait des bobards, cette femme qui s'inventait divi, cette femme qui prétendait l'impossible, m'accusait de duplicité. Secouant la tête, elle ajouta d'une voix tremblante d'émotion.
Je suis amie avec Na à la réception là-haut. Accidentellement, nous avons parlé de vous. Pour vérifier que nous évoquions la même personne, elle a imprimé votre fiche d'identité.
Je blêmis. Elle poursuivit, terrifiante et suave.
Qui sont le garçon et la fille sur la photo que vous conservez ? Selon les documents officiels, vous n'avez pas d'enfant.
C'en était trop. Je quittai la pièce, remontai dans ma chambre. Du lit, je donnai un coup de fil qui remettait mon rendez-vous, prétextant une indisposition. Et sur ce point, d'ailleurs, je n'exagérais pas, car je passais la journée et la nuit à vomir. Vomir faute de pleurer. Vomir pour me libérer de mes frustrations. Vomir afin de me vider de moi. Oui, Madame Ming visait juste, je l'avais bernée. Non seulement j'avais plastronné, mais j'avais oublié ma vantardise. lorsque la photo de mes neveux s'était échappée de ma poche 2 semaines plus tôt. J'avais laissé Madame Ming conjecturer qu'il s'agissait de mes enfants. Outre que sur le moment, cette confusion n'avait pas d'importance, l'équivoque m'avait arraché un frisson de plaisir. Je n'avais osé ensuite revenir en arrière. Mieux, je m'étais délectée à prolonger cette imposture, grisée de voler à ma sœur ses rejetons, enivrée de me raconter en père. Le mardi matin, dans le but de regagner mon estime, je finalisais en 3 heures les contrats, puis ma corvée accomplie, comme si mes pieds décidaient pour moi, je m'engouffrais au sous-sol. Madame Ming, qui escomptait ma venue, piaffa de satisfaction en me voyant surgir. Alors que je demeurais debout, bras ballants, elle me reçut avec mansuétude, tel un convalescent.
« Pourquoi ?»
murmura-t-elle. Je détournai les yeux. Pourquoi quoi ? Pourquoi vous ai-je mystifié ou pourquoi n'ai-je pas d'enfant ?
Pourquoi n'en avez-vous pas ?
Oh, j'aime partir, bouger, voyager.
Des millions de pères s'absentent sans scrupules.
Parmi les femmes que j'ai rencontrées, je n'ai pas trouvé une mère.
Dites plutôt que les femmes qui vous ont rencontrées n'ont jamais trouvé un père en vous.
Elle remua sa soucoupe à piécette et renchérit.
Ne vous voilez pas la réalité. Autorisez-vous à souffrir de manquer d'une famille. Parfois, il faut ouvrir la porte à la douleur. Jusqu'à la fin du roman, paru en 2012 aux éditions Albin Michel, le lecteur est tenu en haleine. En guise de conclusion, voici notre adage confucéen. Ne vous arrêtez pas en chemin, allez au bout du bouquin. Car Madame Ming vous réserve d'autres surprises. Nous remercions Vincent pour l'enregistrement et le montage de cette émission, préparée et lue par Anne et Bénédicte. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission